Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Comment éviter de nouveaux saccages en marge des rassemblements de gilets jaunes ? À Paris, annonce Édouard Philippe, les forces de l'ordre seront placées sous commandement unifié et des interdictions de manifester pourront être décidées dans certains quartiers. Précision dans un instant de Florence Turm. Un tireur en fuite à Utrecht, aux Pays-Bas, après une attaque. La police a déployé une unité antiterroriste. 3 personnes ont été tuées et 9 blessées. La Nouvelle-Zélande remet en question sa législation sur les armes à feu. Après l'attaque meurtrière contre 2 mosquées, le gouvernement veut restreindre l'accès aux armes. Nous irons à Christchurch. Commerce, lieux de culture et hôtels, près de 80% des enseignes situées sur l'avenue des Champs-Élysées ont été touchées par les violences en marge de la manifestation des Gilets jaunes samedi à Paris. Le comité Champs-Élysées souligne que 27 lieux ont été pillés et que des vies ont été mises en danger. L'exécutif a reconnu des dysfonctionnements du dispositif de sécurité. Et cet après-midi, le Premier ministre Édouard Philippe a fait plusieurs annonces. Bonsoir Florence Turm.
Bonsoir.
Pour commencer, une sanction, le chef de la police de Paris va être remplacé.
Oui, Édouard Philippe n'a d'ailleurs pas prononcé le nom de Michel Delpuech, donné régulièrement partant depuis l'affaire Benalla et les polémiques à répétition sur sa gestion de l'ordre public. Il a simplement indiqué que le préfet de police de Paris serait remplacé mercredi par Didier Lallement, l'actuel préfet de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà pour l'annonce politique qui vient sanctionner ce qu'Édouard Philippe appelle des consignes inappropriées, données notamment pour réduire l'usage des balles de défense. La stratégie du maintien de l'ordre décidée après les incidents du 1er décembre n'a pas été correctement exécutée samedi, pas suffisamment de mobilité ni de réactivité, poursuit le Premier ministre en dénonçant les actes criminels commis par des émeutiers, d'où la décision d'interdire si nécessaire certaines manifestations.
Nous voulons bien entendu continuer de protéger le droit de manifester. En revanche, nous mettrons en œuvre une stratégie renforcée de lutte contre les militants des mouvances ultra. Dès samedi prochain, et chaque fois qu'il le faudra, nous interdirons les manifestations se revendiquant des gilets jaunes dans les quartiers qui ont été les plus touchés, dès lors que nous aurons connaissance de la présence d'éléments ultra et de leur volonté de casser. Je pense, bien évidemment, aux Champs-Élysées à Paris, à la place Péberlan à Bordeaux, à la place du Capitole à Toulouse.
Édouard Philippe promet aussi une réorganisation du maintien de l'ordre, donner davantage d'autonomie aux forces présentes sur le terrain, transformer les détachements d'action rapide en unités anticasseurs, recourir à des moyens nouveaux comme les drones ou les produits marquants. Le Premier ministre enfin appelait les manifestants pacifiques à prendre leur distance avec les casseurs et annonçait une augmentation très nette de la contravention pour participation à une manifestation interdite. Les amendes, qui sont actuellement de 38 euros, passeraient à 135 euros.
Il y a la sécurité, l'autre réponse de l'exécutif pour sortir de la crise des gilets jaunes, c'est le grand débat lancé mi-janvier. C'est aujourd'hui la fin des contributions en ligne, mais plusieurs conférences citoyennes thématiques sont encore programmées et le président va poursuivre ses déplacements en région. Ce soir, Emmanuel Macron débat à Paris avec une 60aine de personnalités de la vie des idées. Un échange à suivre en direct sur France Culture après ce journal. Je vous invite aussi à réécouter le grand reportage diffusé vendredi dernier, Des mots et débats. Rendez-vous pour cela sur franceculture.fr. La Fédération française de l'assurance estime à 170 millions d'euros les dégâts liés aux manifestations des Gilets jaunes en France, un bilan qui n'inclut pas les dégradations du week-end dernier sur les Champs-Élysées. Steven Goyer, vous êtes à Bercy, où le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, vient de recevoir les représentants des commerçants et des artisans pour faire le point sur le dispositif d'aide destiné à soutenir les entreprises dans ce contexte difficile. Steven Goyer.
Ils sont 20 représentants de fédérations de commerce, de kiosquiers ou encore d'organisations patronales à s'être regroupés cet après-midi autour du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Discussion d'un peu plus de 3 quarts d'heure pour évaluer les conséquences économiques du mouvement des Gilets jaunes sur les commerçants, comme l'indique le communiqué. Et les résultats de cette réunion viennent d'être annoncés par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui a d'abord voulu à nouveau, je cite, condamner avec la plus grande fermeté les actes de violence et de pillage. Rien ne les justifie. Cette violence doit cesser immédiatement. Fin de citation. Et vous l'avez dit, l'impact est aujourd'hui estimé à 170 millions d'euros, 10 000 déclarations de sinistres déjà enregistrées, avec aussi, Bruno Le Maire l'a redit, l'impact à long terme sur l'attractivité de la France, sur l'image de la France. Et pour venir en aide aux plus touchés, le ministre de l'économie a d'abord annoncé la généralisation des brigades d'intervention de ceux qui vont à la rencontre des commerçants, des artisans, pour faire connaître les dispositifs d'accompagnement déjà existants. Le dispositif D'étalement des charges, par exemple, prévu jusqu'au 30 mars et prolongé jusqu'à la fin du mois d'avril.
Steven Goyer, en direct de Bercy. La production cinématographique française en bonne forme. En 2018, se félicite le Centre national du cinéma français. 273 films français ont été produits et ils ont rencontré du succès auprès du public. Sur 10 films, les Français vont voir près de 4 films français, ce qui est une performance exceptionnelle par rapport au cinéma européen. Dans un contexte d'augmentation mondiale de la production, la France tire donc son épingle du jeu, Cécile de Kervas-Doué, notamment parce que les films français sont de plus en plus rentables.
Oui, et cela tient à leur mode de financement bien particulier par rapport à nos voisins européens. Les films français sont donc plus nombreux. Ils font 3 à 4 fois plus d'entrées en salle et sont aussi 2 fois plus chers à produire. Et pourtant, les films de fiction français reçoivent 2 fois moins d'argent public qu'ailleurs en Europe. Preuve que le système français fonctionne. Il s'appuie sur un principe, ce sont les diffuseurs qui doivent financer la création, c'est-à-dire les salles, mais aussi les chaînes de télévision, les fournisseurs d'accès Internet et aujourd'hui, bien sûr, les plateformes numériques. Et c'est le sens de la directive européenne SMA qui va rentrer en vigueur dans le droit français à la fin de cette année, se félicite Frédéric Bredin, la présidente du CNC.
L'idée, c'est tout simplement l'équité de traitement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des acteurs historiques comme les chaînes de télévision et vous avez des nouveaux arrivants qui sont les plateformes numériques. On voit que ces nouvelles plateformes, elles montent alors même que les acteurs historiques, eux, ont plus de difficultés. Ceux qui sont sur des modèles classiques de recettes publicitaires, comme par exemple comme les chaînes de télévision. Donc l'idée, c'est leur demander la même chose. Il faut que ces nouveaux acteurs qui sont des géants d'Internet financent aussi la création européenne et en entrant dans notre écosystème, à la fois en finançant la création et en investissant une partie de leur chiffre d'affaires dans la création française. Ça veut dire qu'il y aura davantage d'œuvres originales françaises sur les plateformes, alors qu'aujourd'hui, évidemment, le risque, c'est la concentration sur quelques œuvres américaines très financées et très marketées.
Car la directive européenne prévoit aussi d'imposer un quota de 30% de diffusion d'œuvres européennes sur les plateformes numériques, de quoi relancer le débat le risque d'une surproduction cinématographique au niveau mondial, car avec 8000 films produits cette année à travers le monde, cette production a doublé en moins de 10 ans.
Cécile de Kervas-Doué. Nous allons maintenant à Utrecht, aux Pays-Bas, pour en savoir un peu plus sur l'attaque qui a fait 3 morts et 9 blessés ce matin. Un homme a ouvert le feu dans un tramway avant de prendre la fuite et la police néerlandaise privilégie toujours la piste d'un acte terroriste. On retrouve sur place Angélique Boin.
La photo de cet homme d'origine turque a été tweetée par la police ainsi que son identité. Il s'agit d'un homme de 37 ans d'origine turque. On le voit debout dans ce qui semble bien être un tramway, photo tirée d'une caméra de surveillance. Après avoir tiré sur les passagers, ce tireur se serait enfui dans une Clio rouge ce matin qu'il a braqué puis s'est évaporé. Précisons que la police évoque à ce stade un seul assaillant mais n'exclut toujours pas qu'il y en ait eu d'autres. Dans un point de presse ce matin, elle a même évoqué plusieurs fusillades dans cette ville d'Utrecht sans donner plus de détails. Dans le quartier de l'attaque, un quartier de tours et d'immeubles un peu excentrés du centre-ville. La population est restée terrée chez elle toute la journée jusqu'à ce que l'on retrouve le véhicule abandonné plus au nord. Le confinement vient d'être levé, y compris dans les écoles du quartier. Des patrouilles d'unités antiterroristes, des unités à cheval et des hélicoptères sont mobilisés pour cette traque qui s'étend à toute la ville et à l'échelle du pays. Les gares, les aéroports d'Amsterdam, de Rotterdam ou de La Haye sont en état d'alerte.
Angélique Boin à Utrecht, aux Pays-Bas. Après le massacre de Christchurch, la Nouvelle-Zélande va modifier sa législation sur les armes à feu. La première ministre, Jacinda Ardern, l'a réaffirmé aujourd'hui et tout son gouvernement est uni derrière elle et devrait proposer un texte amendé sous 10 jours avec des propositions très concrètes. Suite à l'attaque qui a fait 50 morts, 50 fidèles musulmans vendredi, la chef du gouvernement surfe sur la vague d'émotion nationale pour imposer ce que l'État avait vainement tenté de faire à 3 reprises au cours de ces 10 dernières années. Le reportage de Carrie Newton, notre envoyée spéciale à Christchurch.
Si la culture des armes est réelle en Nouvelle-Zélande, elle l'est surtout parce qu'une grande majorité de la population vit en milieu rural et fermier. Mais les massacres perpétrés dans les 2 mosquées de Christchurch vendredi ont remis les armes à feu au centre du débat. Car les armes se trouvent facilement en libre-service en Nouvelle-Zélande et les propriétaires de magasins d'armes sont assez décomplexés. David Tipple est le propriétaire de la chaîne Gun City qui vend pistolets et fusils depuis 40 ans et qui a fourni des armes aux tueurs présumés.
I've informed the police.
J'ai informé la police que Gun City avait vendu 4 armes de catégorie A aux tueurs présumés. Toutes les ventes faites à cet individu ont été faites en ligne. et ont été contre-vérifiées avec la base de données de la police. Nous n'avions rien remarqué de particulier à propos du détenteur du port d'armes. Les armes de style militaire qui ont apparemment été utilisées par le tireur n'ont pas été vendues par Gun City.
Les Néo-Zélandais pro-armement se pensent raisonnables. Le contexte, il est vrai, n'a rien à voir avec celui des États-Unis. Pourtant, une polémique pointe. Il semblerait que les permis de port d'armes soient très facilement octroyés. Le journaliste de l'Otago Daily Times, George Block, enquêtait sur l'armement et venait de recevoir des données compilées de l'administration. Il y a trouvé le réel taux d'attribution des ports d'armes à feu.
La police du district du Sud où résidait le suspect des attaques terroristes ont remis des ports d'armes à feu à 99% des personnes qui les réclamaient chaque année depuis 5 ans et à 98% des postulants les 10 dernières années. Ça a poussé un militant anti-armement à réclamer des restrictions plus strictes et un processus de cooptation plus rigoureux. Car selon lui, trop de gens y accèdent et des armes se retrouvent en possession des mauvaises personnes.
La chef du gouvernement est bien consciente du dilemme que cela posera aux fermiers et a promis qu'elle prendrait conseil. Elle pourrait s'inspirer de l'Australie voisine qui a réformé ses lois sur l'armement il y a 20 ans, justement après un massacre de masse.
Carrie Newton, envoyée spéciale de France Culture en Nouvelle-Zélande. Le Premier ministre israélien va recevoir cette semaine la visite du chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, et Benjamin Netanyahou ira ensuite à Washington pour rencontrer Donald Trump. Le soutien du président américain lui sera bien utile à 3 semaines des élections législatives en Israël. Benjamin Netanyahou est gêné par la menace d'une inculpation pour corruption, mais il remonte dans les sondages, Étienne Monin.
Et c'est un retournement de situation dans les intentions de vote. Depuis des semaines, le parti du Premier ministre est devancé dans les sondages par la formation centriste bleu-blanc. C'est une coalition d'opposants. Elle rassemble 3 anciens chefs d'état-major. Elle est la seule force crédible aujourd'hui pour une alternance. Elle a profité d'un effet de souffle lorsqu'elle a lancé sa campagne. C'est donc peut-être la fin de cet élan à maintenant 3 semaines du vote programmé le 9 avril. Dans les intentions de vote, bleu-blanc est à 30 sièges. Le Likoud à 31, le parti d'opposition a peut-être été siphonné par un nouvel astre montant dans ces élections. L'extrémiste et ultra-libéral parti Zehout semble avoir capitalisé sur l'idée de légaliser le cannabis. Invisible jusqu'à présent, cette formation très à droite sur l'échiquier aurait 4 sièges, ce qui renforce encore le bord extrême de la droite avec un total de 20 sièges au profit du Premier ministre. Benjamin Netanyahou non seulement passe devant, mais il renforce sa capacité à former une coalition pour gouverner. D'après ses intentions de vote, il aurait une majorité minimale, entièrement appuyée sur des formations nationalistes et religieuses, dont il pourrait devenir l'otage, fragilisé par la menace des poursuites judiciaires.
Étienne Monin, depuis Jérusalem. Après le passage du cyclone Idai sur l'Afrique australe, le président du Mozambique pense que le bilan va dépasser le millier de morts. Pour l'instant, le bilan officiel est de 84 morts dans le pays. Mbeera, la deuxième ville du Mozambique et ses environs ont été endommagés ou détruits à 90%. Les maisons sont détruites, des toits se sont envolés, des poteaux électriques ont été arrachés et les routes coupées. Omar Waman a joint une habitante de Maputo, la capitale du Mozambique. Elle explique à quel point il est difficile d'avoir des nouvelles en provenance de Beira et de ses environs.
On a encore très peu de nouvelles. Par accès terrestre, la route est encore bloquée. Il y a un pont qui s'est effondré à 100 kilomètres de Beira. Donc pour le moment, les secours ne peuvent pas tellement arriver. La ville de Beira en elle-même est bien sûr moins touchée que les quartiers périphériques et encore plus ensuite dans les abords de la ville. Qui sont encore inaccessibles pour la plupart. C'est vrai que jusqu'à hier, on était vraiment, Beira était un peu isolée du monde, coupée, pas de communication, pas d'accès aérien, pas d'accès terrestre, ça commence tout juste à reprendre. Les gens s'entraident beaucoup, en tout cas. On essaye de chercher tout le monde, les voisins entre eux, de faire passer des informations, des listes de noms, les réseaux sociaux aident beaucoup là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que Beira va avoir besoin de beaucoup d'aide.
Et au Zimbabwe, le dernier bilan fait état de 89 morts. Elle avait 40 kilos de déchets en plastique dans l'estomac. Une baleine qui ne pouvait plus rien avaler est morte de faim après s'être échouée aux Philippines. Les défenseurs de l'environnement accusent l'archipel d'être l'un des plus grands pollueurs des mers. L'usage de produits en plastique jetable y est généralisé. Le temps prévu demain mardi en France, des éclaircies à l'est où le ciel sera bien dégagé l'après-midi. À l'ouest, plus de nuages et en Corse, des averses. Les températures seront en légère baisse avec le retour des gelées. les matinales sur la moitié nord. Maximale 9 à 14 degrés, jusqu'à 16 près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.